Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Il n'y a pas meilleur refuge qu'un livre d'images qui nous fait voyager d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, dans une juxtaposition poétique de plusieurs récits en miroir. C'est un roman graphique où il est question des conflits d'hier et ceux d'aujourd'hui. Mise en abîme et mise en perspective donc. Scène de vie brève et brillante comme des étoiles dans un ciel dégagé. Ces poussières du passé qui éclairent nos jours présents et nos nuits de doute. Prendre refuge est le roman graphique des rencontres heureuses et amoureuses en temps de guerre. Prendre refuge est un roman graphique de Zaina Abirached et Mathias Sénard, édité par Casterman, et ça vient de sortir.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée au Réveil culturel. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Claude Nior et nos invités Zaina Abirached et Mathias Sénard. Et il y a donc dans Prendre refuge, le roman graphique que vous publiez chez Casterman, deux histoires d'amour sur deux époques. Alors l'une se déroulant à la fin des années 30, en 1939 pour être précis, où deux femmes qui fuient une Europe en guerre vont s'aimer au pied des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Et puis une autre rencontre amoureuse qui se passe de nos jours, à Berlin, entre une réfugiée syrienne et un Allemand. Mais avant de parler de ces deux histoires, parlons de l'histoire de ce livre, autrement dit de votre rencontre, de votre envie de travailler ensemble. Vous, Zaina Abirached, auteur de bande dessinée libanaise, exilée en France, et vous, Mathias Sénard, écrivain français vivant depuis quelques années à Barcelone, et dont l'œuvre archiprimée se concentre sur les rapports entre l'Orient et l'Occident. Comment vous vous êtes rencontrés?
Eh bien, on s'est rencontrés à Beyrouth.
Effectivement, on s'est rencontrés à Beyrouth en 2015.
Au moment de la sortie de Boussole et du Piano Oriental.
Au Salon du Livre de Beyrouth, au Salon du Livre francophone de Beyrouth. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de communication entre nos mondes, entre nos travaux respectifs, même au-delà de Boussole et du Piano Oriental, qui déjà partageaient la musique, Vienne, beaucoup de thèmes en commun. Et à plusieurs reprises, au gré de d'autres festivals et d'autres occasions, on a pu explorer un peu plus ces territoires en commun, jusqu'à avoir l'idée de travailler ensemble et de faire un album ensemble.
L'histoire est arrivée tout de suite.
Eh ben, l'histoire, au départ, est l'idée de Mathias qui m'a proposé ce projet, donc il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Et c'était, oui, je pense que c'était une histoire que tu portais depuis assez longtemps envie de l'écrire, il me semble.
Tout à fait, oui, c'était l'histoire afghane d'un côté et puis l'histoire des réfugiés à Berlin aujourd'hui que j'avais pu voir vivre de près puisque j'ai passé justement les années 2013-2015 à Berlin au moment de l'arrivée massive des réfugiés syriens et que j'ai fréquenté dans mon quartier, qu'on a aidé en faisant les interprètes au pied levé pour des associations de voisins. Et donc je voulais raconter ces histoires-là, mais d'une façon peut-être indirecte, pas le quotidien d'un réfugié, mais trouver une façon plus métaphorique, justement la juxtaposant avec une autre histoire, qui permette de donner toute cette dimension à la fois personnelle, amoureuse, collectif, d'un destin, du triste destin des Syriens aujourd'hui, au milieu de la guerre civile.
Cette histoire en parallèle qui se déroule en 1939, c'est une histoire que vous aviez en tête, qui était contenue dans un livre et que vous vouliez adapter à votre manière avec Zaina Abirached.
Elle n'était pas contenue dans un livre. C'est l'histoire de... En fait, on s'est inspiré du personnage d'Anne-Marie Schwarzenbach, qui est donc une écrivaine suisse, morte très jeune en 1942, et qui a eu une vie assez mouvementée, assez aventureuse. Elle a été archéologue, elle a beaucoup travaillé au Proche-Orient.
Où elle a écrit d'ailleurs un hiver au Proche-Orient, c'est ça?
Oui, voilà, ça c'est un recueil de nouvelles, effectivement, qui est paru sous ce titre en français. Et... Elle a fait ce long voyage avec une autre Suissesse aventurière qui s'appelle Ella Maillard. Ils ont acheté une... Marie Schwarzenbach s'est mis au volant d'une Ford, une vieille Ford, et ils sont partis de Suisse jusqu'en Afghanistan. Le projet était même d'aller au-delà, jusqu'en Inde. Et une espèce de croisière jaune, on pourrait dire...
Et amoureuse.
Et amoureuse, oui, c'est ce qui se produit ensuite en Afghanistan. En tout cas, c'est le récit que nous en fait Anne-Marie Schwarzenbach dans quelques textes inédits encore, où elle raconte sa passion pour une archéologue, la femme d'un archéologue qui était en charge de la mission française en Afghanistan, et donc des fouilles des différents sites afghans, qui s'appelle Ria Akin. Et dont elle est tombée apparemment éperdument amoureuse, une passion extrêmement brève et qui n'a débouché sur rien puisque après la déclaration de guerre, donc on est en 1939, leurs destins se séparent. Anne-Marie Schwarzenbach rentre en Suisse et la Maillard continue son voyage en Inde où elle passera toute la Deuxième Guerre mondiale. Et Ria Akin et son mari rentrent en France, ensuite rejoignent le général de Gaulle en Grande-Bretagne et mourront dans le... après que leur bateau qui les ramenait justement en Orient soit torpillé par un sous-marin allemand en 1941.
Voilà, mais le livre « Prendre refuge »
ne parle pas du tout de ça.
Non. Voilà, il ne parle pas du tout ça.
Pas du tout. Bon.
À quel moment, Zina Abirached, vous avez senti que c'était votre monde, je veux dire, votre monde graphique? Est-ce que c'est le moment où Mathias Sénard vous a expliqué ces deux histoires qui racontent quand même une tragédie, mais en miroir, c'est-à-dire une époque où on quittait l'Allemagne pour fuir l'horreur nazie, et puis une époque plus actuelle, l'époque d'aujourd'hui, où on se réfugie en Allemagne pour quitter les balles et les bombes du Proche-Orient.
Oui, alors très vite, quand on a commencé à parler du projet avec Mathias, il y avait un peu tous les ingrédients qui m'intéressaient. C'est-à-dire l'amour, l'aventure, en effet cette histoire d'une jeune réfugiée syrienne qui pourrait avoir mon âge en Europe aujourd'hui. Et il y avait ces montagnes afghanes et ces bouddhas géants que ma génération, que la plupart d'entre nous n'a connu qu'une fois qu'ils ont été détruits en 2001. Et très vite, c'était très familier et en même temps très étranger à mon univers. Alors c'est vrai qu'il y a l'Orient, l'Occident, cette...
Et puis surtout, vous aimez raconter les histoires du passé.
Oui,
vous aimez restituer par le dessin des mémoires...
Tout à fait, tout à fait. Il y avait en effet l'envie de raconter l'histoire de cette jeune femme qui arrive en Europe aujourd'hui dans les conditions qu'on devine et qu'on raconte un peu dans le livre. Et surtout, ce territoire jusque-là inconnu pour moi, qui était, dans le dessin en tout cas, qui était justement le dessin de montagne, de nature, de la roche, des cieux, qui sont là pour ponctuer tout le livre, en grande partie quand même l'histoire qui se passe en Afghanistan. Donc il y avait ce mélange de familier et d'étrangers qui m'a donné envie d'aller voir ce que ça pourrait faire à mon dessin aussi et à mon écriture de raconter une histoire qui ne se passe pas comme d'habitude à Beyrouth où ce sont des récits autobiographiques en effet sur le passé de mon pays. Et c'était c'est comme ça qu'on a démarré en fait sur cet enthousiasme mutuel de raconter ces deux histoires.
Mathias Sénard, sur le traitement de ces deux histoires que vous allez juxtaposer, parce que le scénario est signé par vous deux, est-ce que vous avez avancé dans ce travail en imaginant ce que visuellement ça peut rendre?
C'était ça qui était absolument passionnant, c'était de travailler avec Zainab, d'écrire réellement pour le dessin. Donc ce que j'écrivais était transformé par le dessin de Zainab. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de texte qui reste tel quel, juste les dialogues. Et... ces deux histoires ont été transformées par Zaina. D'abord parce qu'on a beaucoup discuté ensemble à chaque fois, presque pour chaque chapitre, on va dire chaque séquence. On revenait ensemble sur ce qui avait déjà été écrit. Zaina découpait, comme elle le sentait, les scènes que je lui proposais. Et donc c'était vraiment un travail simultané, bien plus que des allers-retours. On travaillait ensemble, parfois chacun de son côté, parfois tous les deux, sur une séquence qui finalement prenait corps petit à petit dans le dessin, mais à partir d'un travail vraiment conjoint.
Comme une conversation ouverte qui dure 2 ans.
Ça a duré 2 ans ?
Oui, 2 ans de travail, 2 ans de conversation, d'échange, de remodelage, de montage, de... Oui, bah oui, 2 ans. 330 pages quand même.
Et cette idée de raconter cette histoire en laissant un peu le lecteur se poser toujours la question s'il est dans un récit réaliste ou s'il est plutôt dans une interprétation philosophique, spirituelle du monde que vous racontez, des deux histoires que vous relatez.
Évidemment, le concret de la vie de Naila, qui est donc cette jeune Syrienne qui débarque à Berlin et qui rencontre Karsten, le jeune architecte berlinois qui connaît pas grand-chose à l'Orient. Donc on la suit dans ses premiers pas dans cette Europe qui est jusque-là inconnue pour elle. Et évidemment, il y a aussi tout le côté poétique, métaphorique, de la présence de ces Bouddhas, de ces témoins qu'on a l'impression d'être immortels, de ce ciel qui, lui, est peut-être la seule chose qui ne change pas, malgré tout, au fil des siècles, au fil des remous de l'histoire. Le ciel, est toujours là, présent. Donc en effet, il y a ces deux dimensions. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi peut-être une troisième dimension, qui est une troisième lecture, peut-être une façon que chaque lecteur aura de relier ces deux histoires et de les tisser l'une avec l'autre, avec les pistes qu'on suggère. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont racontées hors champ, justement. Il y a une grande part laissée au lecteur pour une interprétation personnelle. Et je pense que c'était quelque chose d'assez important pour nous dès le début, au moment où on a vraiment commencé à parler des prémices de ce qu'allait devenir ce livre. C'était quelque chose qu'on avait évoqué assez rapidement. Ouais.
Ce que j'aime, j'utilise comme métaphore, c'est de voir que ces deux récits sont juxtaposés et ils forment un peu la base, hein. Deux histoires côte à côte font une base en deux dimensions qui fabrique une pyramide invisible que le lecteur va presque fabriquer lui-même, hein, et en tout cas lire ou arpenter ou découvrir lui-même. Ce volume vient des relations qu'entretiennent ces deux histoires, mais qui sont de l'ordre de l'implicite. À part, évidemment, les liens graphiques qu'il peut y avoir, le ciel, les constellations qui, effectivement, comme le disait Zeina, sont toujours les mêmes. Et cette question de qu'est-ce que c'est que le refuge, les moments tournants où on sent bien que nos destins basculent, hein, dans un sens ou dans l'autre, par une rencontre amoureuse, par une déclaration de guerre très loin en Europe, mais dont on sent que tout cela va nous affecter. Comme disent les bouddhistes, tout est lié. Et donc ces deux récits sont liés par cela aussi, par une communauté de destin, de moments tournants, moments d'émotion, moments de rencontre de l'autre, où on croit percevoir par l'amour, la langue, quelque chose d'autrui. Puis parfois, tout ça disparaît et on passe à autre chose.
On ne se convertit pas au bouddhisme, dit-on, on y prend refuge.
C'est effectivement l'expression technique qu'utilisent les bouddhistes. Les bouddhistes, on se réfugie, hein, dans trois choses, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, c'est-à-dire l'espèce de communauté des gens qui savent et qui vont pouvoir vous transmettre quelque chose, et les enseignements et le Bouddha.
Et on se rend compte à la fin de ce récit, prendre refuge, à quel point le mot refuge est doux, alors que le mot réfugié, depuis quelques années, est un mot qui... anxiogène. Est-ce que c'est parti aussi de cette envie de se réapproprier ce mot?
Oui, certainement. C'est parti aussi, je pense, de l'envie qu'on avait de raconter l'itinéraire d'une réfugiée, mais avec un autre angle, sous l'angle de son intimité, justement. On a voulu aussi explorer un peu toutes les possibilités de ce terme du refuge. Alors, c'est le refuge dans une nouvelle patrie, dans une nouvelle langue, le refuge amoureux. C'est un peu, voilà, tous ces fils-là qu'on a voulu tisser autour du mot refuge.
Prendre refuge, le titre était là depuis le début, Mathias Sénard.
Oui, tout à fait, le titre était là depuis le début. Prendre refuge, c'est se réfugier, ça veut dire, c'est quitter quelque chose pour retrouver quelque chose d'autre. C'est évidemment fuir devant la violence, on laisse derrière soi la violence de guerre, et on se reconstruit quelque part par les nouvelles rencontres, bien sûr les gens, les peuples, les langues qu'on peut rencontrer.
Il y a l'idée aussi de la pause dans le refuge, pause avant de reprendre la marche pour aller peut-être ailleurs. Mais on va pas raconter la fin de l'histoire.
Alors on va trouver un refuge tout de suite avec Abdelhalim.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى
Mathias Hénard, Zina Abirached, nos invités ce vendredi pour nous parler de leur bande dessinée Prendre Refuge, édité chez Casterman. Zina Abirached et Mathias Hénard qui ont compris, bien sûr, de quoi parler à Abdelhalim Hafaz à la radio. Mathias Hénard.
Oui, bien sûr, je trouve ce passage absolument magnifique. Il dit « In kunta habibi sa'adni kay elhal anak ». Ça veut dire « Si tu es vraiment mon amour, aide-moi pour que je puisse fuir de toi, pour que je puisse m'éloigner de toi et t'oublier ». Et finalement, le but ultime de l'amour, ce serait aussi une sorte de séparation. C'est-à-dire, si vraiment tu m'aimes et que tu sens que tu veux mon bonheur, fuis-moi.
On parle de déracinement, de la difficulté d'aimer, d'en prendre refuge avec ces deux histoires d'amour, parce qu'il s'agit quand même de deux histoires d'amour à deux époques différentes. On en a parlé, c'est une histoire d'amour entre deux femmes en Afghanistan, alors que l'Europe s'apprête à vivre sa page la plus sombre. Et puis, cette autre histoire d'amour entre une réfugiée syrienne qui quitte Alep, où elle enseignait l'astronomie, et cet Allemand qui lui-même est attiré par cette culture. C'est aussi la rencontre compte quand même de deux écritures, hein, graphiquement, puisque la langue arabe est présente à travers une initiation à l'écriture, à la culture, à la poésie arabe. On retrouve Nezha Kabbani dans Prendre Refuge, Zina Abirached.
Oui, c'est une scène où Neila essaye de raconter la culture arabe, de raconter sa culture à Karsten à travers la poésie arabe. Et donc il lui dit, mais je suis sûre que c'est atrocement compliqué. Et elle lui dit, mais pas du tout, c'est très simple, je vais te montrer. Et donc elle lui montre, elle lui lit le poème en traçant les lettres sur une grande feuille de papier, puisqu'il est architecte.
Et on imagine tous les dessins que vous pouvez faire autour de cette scène.
Oui, c'est extrêmement tentant, en effet, de trouver des jeux graphiques et des correspondances entre l'arabe, le français, toutes ces lettres qui dansent et s'imbriquent, justement, dans cette scène-là. Et évidemment, lui ne comprend pas tout, je crois. En tout cas, pas tout de suite. Mais il lui dit quand même, je crois que j'ai compris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se rapproche. Et quelque part, ce poème, même si le sens n'est pas compris par Karsten, c'est peut-être ce poème qui leur a permis de trouver une langue commune, puisque elle apprend l'allemand, lui ne parle pas l'arabe. Et je pense que c'est la scène où il se crée ce langage amoureux commun qui se passe de mots.
Et c'est une scène bouleversante. Est-ce que vous avez fait exprès de choisir ce poème précisément, Mathias Sénard et Zina Abirached?
Oui, en fait, évidemment, j'ai choisi ce qui pouvait représenter le plus une poésie amoureuse
Al-Hubbou ya Habibati.
Mais c'est vraiment une question qui parle, c'est un poème d'amour qui raconte ce que c'est que l'amour, qui dit l'amour, mon amour.
L'amour, mon amour. Déjà ça commence comme ça.
Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a ce verbe, enni ahrak, ahrak. Bon, je me noie dans l'amour. Ça, c'est la métaphore de la poésie arabe. Mais vous pensez bien que lorsqu'on lit ça aujourd'hui, avec toutes ces histoires de réfugiés qui se noient dans la mer, je me suis dit, vous aviez pensé vraiment à ça?
Ben, c'est pas pour rien que quelques pages avant, il me semble, il y a un dessin sur une double page de barques qui ne se noient pas, mais qui peuvent évoquer justement notre histoire contemporaine. Et c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure quand je vous disais la troisième lecture de chaque lecteur, c'est-à-dire que ça sera au lecteur de tirer justement ces fils et de remarquer que tiens, il y a un moment où on parle de se noyer dans l'amour et un autre où on peut faire un pont avec l'histoire terrible des personnes qui se noient en Méditerranée. Est-ce que c'était prévu, Mathias, ou est-ce que c'était vraiment instinctif? Je ne sais pas. J'ai l'impression que comme on a écrit et dessiné, l'histoire était vivante pendant tout le temps où on l'a travaillée. Il n'y a pas eu un moment où on a écrit et ensuite où on a dessiné. Donc c'était vraiment en train d'être fait. En direct, disons. Donc, peut-être que ces liens-là, on les a découverts aussi au fur et à mesure. Est-ce que parfois le dessin précédait l'écrit ou est-ce que c'est le mot qui donnait la vie au dessin? C'est assez mystérieux de trier tout ça aujourd'hui avec du recul.
Mathias Sénard, Zina Birachet pour Prendre Refuge, c'est édité par Casterman et à partir d'aujourd'hui, nous allons accueillir une fois par mois en partenariat avec la revue Casemate, Sonia Deschamps, et c'est un plaisir de vous avoir.
Je suis ravie d'être là.
Et surtout, merci d'avoir dressé le portrait de Zina Birachet. Qu'on n'oublie pas que ce n'est pas votre premier livre, Prendre Refuge, Zina Birachet. À vous Sonia.
Pas de doute, oui, c'est bien Zaina Birachet qui est avec nous ce matin. Toujours ce sourire rayonnant, toujours ses yeux rieurs et toujours ce chouette mouton sur la tête. C'est au Liban que Zaina, vous avez grandi, un Liban déjà en pleine guerre civile quand vous êtes née. Un Liban que, devenue dessinatrice de bande dessinée, vous vous êtes attachée à raconter avec ce besoin de dessiner contre l'amnésie collective. Cette amnésie qui efface les traces de la guerre, vous aviez une dizaine d'années quand celle-ci a pris fin. Dessiner pour capter ce qui disparaît, dessiner aussi pour comprendre. Dans Beyrouth Catharsis, vous décrivez la rue dans laquelle vous avez grandi, une rue que vous pensiez être une impasse jusqu'au jour où le mur qui la bouchait a disparu. Fin de la guerre, vous avez alors découvert que votre rue menait, je vous cite, à un réseau d'autres rues, d'autres histoires, d'autres vies. Vous l'écrivez dans ce Beyrouth Catharsis, « Depuis, la ville est entrée en moi ». Depuis, la ville, vous l'avez beaucoup dessinée, en partie depuis Paris, puisque le Liban, vous l'avez quitté en 2004. À 23 ans, vous avez décidé de partir en France pour devenir autrice de bande dessinée. Vous le racontez, vous aviez droit à une valise de 23 kilos, comme s'il fallait prendre 1 kilo par année. Ça fait pas bien lourd, mais il fallait partir pour mieux raconter et de façon très pragmatique pour publier. Pas facile à distance de contacter des maisons d'édition en France. Vous avez pourtant essayé de le faire depuis le Liban, d'envoyer des avant-projets de ce qui allait devenir le très beau « Je des hirondelles », publié plus tard aux éditions Cambourakis. Pendant les années de guerre, faut bien se rendre compte qu'il n'y avait plus de service postal. Du coup, vous me l'avez raconté, les toutes premières lettres que vous avez envoyées de votre vie, ce sont des lettres à des éditeurs. Les premières lettres que vous avez reçues étaient des lettres d'éditeurs aussi. Bon, des lettres de refus, mais vos premiers courriers étaient donc liés à la bande dessinée que vous avez découverte grâce à la bibliothèque familiale, tous les Tintins, tous les Astérix, quelques Gottlieb, un peu de Bretéché, puis à l'adolescence, une librairie et la découverte de Tardy, de Marc-Antoine Batieu, de David B, des livres avec une très forte dimension littéraire, une grosse claque pour vous, mais vous n'êtes alors pas de ces jeunes gens qui passent leur temps à dessiner sans rien écouter en cours. Le dessin est là, pas plus important que les études. Et puis il y a le bac, vous l'obtenez et vous décidez d'arrêter de porter une montre. Peut-être le signe qu'il est temps pour vous de vous amuser. Le dessin revient alors en force, tout de suite très lié à l'écriture. Une façon de jouer avec le temps, de remonter le temps. À l'Académie libanaise des Beaux-Arts où vous étudiez alors, vous êtes l'étudiante idéale. C'est en tout cas ce que m'a confié Michel Stanjowski, qui a été votre professeur, je la cite. Curieuse, intelligente, drôle, sensible, rayonnante, ça ne s'arrête pas là. Aussi travailleuse, persévérante, réaliste, modeste et avec surtout très tôt une vraie écriture, résolument personnelle, un ton inédit, un graphisme simple et fort et une facilité apparente à contourner les difficultés. rien que ça. Un graphisme simple et fort à un noir puissant qui rappelle par moments le théâtre d'ombre et les marionnettes turques caragueuses, avec tout aussi tout un jeu sur la répétition des formes, des motifs, un style immédiatement reconnaissable que certains des auditeurs auront peut-être découvert seulement récemment avec le piano oriental. Dans cet album, vous dessinez une nouvelle fois Beyrouth, mais un Beyrouth mythique, un Beyrouth d'avant votre naissance, d'avant la guerre, le Beyrouth de votre arrière-grand-père. Le piano oriental est sorti en septembre 2015. Quelques semaines plus tôt sortait La Boussole de Mathias Hénard, rencontre amicale et artistique dont on découvre aujourd'hui avec bonheur le fruit.
Prendre refuge donc, le fruit, c'est édité toujours chez Casterman. Merci beaucoup Sonia Deschamps, merci infiniment Ozina Abirachet d'être passée ce matin. Merci beaucoup à vous Mathias Hénard.
Merci.
Merci.
فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحداث.